Europe 1. Europe 1,
14h, 15h.
On de la traconte.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'espion. Et c'est pas courant de raconter des histoires d'espions, et pour cause en général, on ne sait pas ce que font les espions. C'est secret, ça ne sort jamais. C'est une histoire qui commence par un énorme attentat, en 1983 à Beyrouth, au Liban, contre des parachutistes français et des Marines américains. Et là, la décision est prise de venger la France. François Mitterrand donne l'ordre à la DGSE de monter une opération de représailles. Et pour une fois, on a les détails de cette opération, grâce à vous, Vincent Nouzy, bonjour.
Bonjour.
Vous allez m'aider tout à l'heure à débriefer cette histoire que vous racontez parmi d'autres opérations du service action de la DGSE, dans un livre paru en 2015 chez Fayard et qui est aujourd'hui disponible en livre de poche chez J'ai lu, Les tueurs de la République. Voici donc cette histoire qui débute par l'attentat du Drakkar à Beyrouth en 1983 et qui se termine longtemps après par l'exécution de son commanditaire présumé. La réalisation est de Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Cette histoire, ça pourrait être un épisode de la série Homeland ou du Bureau des légendes. C'est une histoire qui grouille d'espions. C'est la guerre, mais vue d'en dessous. La guerre qu'on ne raconte jamais. Alors voilà, je vous emmène à Beyrouth au Liban le 23 octobre 1983, tôt le matin, dans la partie ouest de la ville, devant un immeuble qu'on a baptisé le Drakkar. C'est là que sont installés une partie des 2000 soldats français qui composent avec 1600 Américains la force multinationale des Nations Unies. Un an qu'ils sont là pour tenter de mettre fin à la guerre au Liban. Revenons devant cet immeuble, le Drakkar, ce matin d'octobre 83. Vous avez vu l'état de la façade ? Elle est criblée de balles, comme la plupart des bâtiments de Beyrouth. Et maintenant, regardez le drapeau, là-haut, sur le toit. Le drapeau français. Juste en dessous, vous voyez la sentinelle ? C'est le caporal Guillemette, du 1er régiment de chasseurs parachutistes de Pau. Il est 6h17 et... Ça vient du sud de la ville. Du côté de l'aéroport, perché sur le toit du Drakkar, le caporal Guillemette voit tout de suite d'où ça vient. Ça vient de l'immeuble des Marines américains.
J'ai vu l'explosion de l'immeuble américain, pas très loin du l'autre. Et je sais pas, moi, 2 minutes après, à peine 2 minutes après, notre bâtiment a explosé. Il y a eu une grande déflagration et il y a eu un grand souffle. J'ai été jeté au plafond. Je me suis retrouvé quelques secondes après en bas dans les décombres.
Il est 6h24 et le Drakkar n'est plus qu'une ruine fumante et sanguinolente. Combien étaient-ils là-dedans ? Combien de morts ? Les ambulances arrivent et les paras qui ont survécu se mettent à creuser les gravats à main nue. Ils cherchent leurs copains. Et à un moment, il y en a un qui trouve un cœur humain détaché d'un corps, entre deux pierres. C'est un carnage. Assez vite, des pelleteuses entrent en action. Un engin est en train de faire basculer une dalle de béton et il voit une main qui dépasse.
Arrêtez ! Arrêtez, il y a quelqu'un en dessous !
Le sauveteur s'approche, il saisit la main, elle bouge. Le gars est vivant et on sait qu'il s'appelle Eric parce qu'on voit dépasser sa gourmette. Pendant 4 heures, ce sauveteur va tenir cette main, le temps que ses camarades parviennent à le dégager des gravats. Un photographe de l'agence SIPA est là, il s'appelle Yann Morvan, et il prend une photo qui va faire le tour du monde. Les premiers blessés sont transportés sur le porte-avions Clémenceau qui mouille au large de Beyrouth. Et on ne sait toujours pas combien il y a de morts. Et dites-vous bien qu'au même moment, il se passe exactement le même drame au quartier général américain. Les sentinelles américaines disent qu'elles ont vu un camion foncer sur leur bâtiment.
Une extrême confusion règne dans le secteur ouest de Beyrouth. Secouristes, ambulances, pompiers, unités de la force multinationale s'emploient à dégager des décombres des deux bâtiments militaires effondrés par les explosions de ce matin, les survivants et les corps des victimes. L'immeuble occupé par une des unités françaises est entièrement détruit. Il y avait, selon les premières indications données par les officiers de la base française, de 60 à 80 soldats présents dans le bâtiment. Une dizaine de corps ont déjà été retirés, mais on craint que le bilan ne soit beaucoup plus lourd.
Le soir même à Paris, le Premier ministre Pierre Mauroy prend la parole.
J'exprime aux familles des victimes mortes ou disparues la douloureuse sympathie du président de la République et du gouvernement. Le ministre de la Défense, M. Charles Hernu, et le général Lacaze, chef d'état-major des armées, viennent de partir pour Beyrouth.
Mais alors qui ? Qui a pu commettre ce double attentat ? Qui est assez fort pour faire exploser à 2 minutes d'intervalle un bâtiment militaire français et un bâtiment américain ? Si vous allumez la radio, on parle de 3 pistes. Les Américains pensent que c'est l'Iran, les Israéliens évidemment que c'est la Syrie, et les Français un montage libano-irano-syrien. Dans les ruines du Drakkar, les opérations de sauvetage durent toute la nuit. Et au petit matin, on a sorti 23 cadavres. Mais il manque encore 40 soldats à l'appel.
Europe 1, Ondelette raconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'attentat du Drakkar en octobre 1983 à Beyrouth, au Liban. Une explosion qui ravage un matin, coup sur coup, un cantonnement de l'armée américaine et un autre de l'armée française. Une mission au Liban sous casque bleu. Une histoire que nous allons débriefer tout à l'heure avec le journaliste d'investigation Vincent Nouzille, qui a publié en 2015 chez Fayard « Les tueurs de la République ». Nous en étions juste après l'explosion, au moment où les sauveteurs français s'activent pour dégager les corps et tenter de porter secours aux survivants. Dans le camp français, on compte pour l'instant 23 morts et plus de 40 disparus. Le lendemain matin, à 7h, un avion Falcon aux armes de la République française se pose sur le tarmac de l'aéroport de Beyrouth. On avance une passerelle, la porte de l'avion s'ouvre, c'est le président Mitterrand qui en sort. Costume gris, cravate bleu sombre, teint pâle, Mitterrand est accueilli au pied de la passerelle par le président du Liban, Amine Gemayel. Jusque-là, la visite avait été tenue secrète. Le président français va d'abord se recueillir devant les corps des 23 victimes sorties des décombres. Et juste après, il se rend sur place, sur les lieux de l'attentat, alors que les opérations de secours se poursuivent. Et le président entend de ses oreilles les râles des parachutistes encore prisonniers des décombres et les hurlements de ceux qu'on arrache à la pierre. Il est livide. Il parle aux soldats, il parle aux officiers, il est en colère. Est-ce qu'il ne fallait pas étaler ce cantonnement au sol ? Peut-être, monsieur le président. Est-ce qu'on a disposé des sacs de sable pour protéger l'accès ? Oui, monsieur le président. Et ensuite, Mitterrand rentre à Paris, et le soir même, il intervient depuis l'Élysée.
À tous, je dis qu'un pays est grand par sa force d'âme, par sa résolution, comme par les amitiés et le respect qu'il mérite. C'est pourquoi, au Liban, la France reste et restera fidèle à son histoire et à ses engagements. La France ne défend pas autre chose que la paix.
Il faut 4 jours pour dégager les derniers survivants et finir de compter les cadavres. 58. L'attentat a fait 58 morts dans le camp français. Quelques officiers, mais aussi beaucoup d'appelés. Des gamins de 20 ans qui faisaient leur service. Du côté des Américains, le bilan est encore plus lourd. 241 Marines ont été tués. Alors qui ? Qui a fait sauter le Drakkar ? Et comment ? Et qui a balancé cette voiture piégée sur le cantonnement américain ? Qui ? Qui est assez fort pour avoir monté ce double carnage ? Côté français, c'est le patron des soldats basés au Liban, le général Bernard Serpol, qui est chargé de l'enquête. Et je vous l'ai dit, côté américain, on sait déjà que c'est une voiture piégée qui a foncé sur le QG des Marines. Une camionnette Mercedes jaune qui a forcé l'entrée du bâtiment, qui s'est enfoncée dans le sous-sol et qui a explosé. Mais qu'est-ce qui a détruit le camp français ? Les hommes du général Serpol recueillent assez vite le témoignage d'une femme de ménage philippine qui travaillait dans un immeuble à côté et celui d'un employé de bureau. Ils ont vu un pick-up Toyota rouge foncer sur le Drakkar.
Le pick-up, il livrait des marchandises. On le connaissait, on le voyait depuis 15 jours. Il passait dans le quartier le matin.
Les spécialistes évaluent à 250 kilos la masse d'explosifs utilisée pour faire sauter le Drakkar. Mais reste à trouver qui. Qui a perpétré ces attentats ? Fin octobre, le chef du bureau de la CIA à Paris, John Seidel, vient voir le patron de la DGSE, l'amiral Lacoste, à la piscine, le siège des services de renseignement français, boulevard Mortier, à Paris.
Pierre, nous avons un document qui va vous convaincre de l'implication de l'Iran. Jusqu'au cou, comme vous dites. L'attentat a eu lieu le 23 octobre. Eh bien, la veille, le 22, nous savons que le groupe Amal s'est réuni à Beyrouth, dans le quartier chiite, dans cette maison. Regardez la photo. Ce sont eux qui ont commis l'attentat. Nous en sommes absolument certains. Et derrière, comme vous le savez, il y a l'Iran.
Les agents de la DGSE vérifient. Et ça se confirme. Une réunion du groupe Amal, proche des Iraniens, a bien eu lieu à Beyrouth la veille de l'attentat. Et donc assez vite, les Français sont sur la même ligne que les Américains. Les deux attentats ont été réalisés par la milice chiite Amal et derrière, il y a l'Iran. Et ça n'est pas vraiment une surprise. Au moment des attentats, l'Iran et l'Irak sont en guerre. Et dans cette guerre, la France soutient l'Irak, sans se cacher. Le Canard enchaîné a révélé il y a quelques mois que la France met à disposition de l'Irak des avions de chasse, des super étendards avec des pilotes pour les piloter et des missiles Exocet. Donc ça explique tout. Les Iraniens se sont vengés. Dix jours après l'attentat, une cérémonie est organisée aux Invalides, à Paris, pour les 58 soldats français tués dans l'explosion.
Parachutiste Schmitt, nous vous conférons la médaille militaire. Parachutiste Potencier, nous vous conférons la médaille militaire.
La scène clé de cette affaire se joue juste après cette cérémonie. Mitterrand rentre à l'Élysée. Et il fait venir dans son bureau le ministre de la Défense, Charles Hernu, son chef d'état-major particulier, le général Saulnier, et le directeur de la DGSE, l'amiral Lacoste.
Le Drakkar est l'œuvre de l'Iran. Nous en sommes certains maintenant. Alors je vous demande de mener une opération de représailles. Pas pour se venger, mais pour éviter que ça se renouvelle.
Oui, vous avez bien entendu. le président de la République française vient de demander à la DGSE d'organiser une opération de représailles, la France va se venger. Le patron de la DGSE, l'amiral Lacoste, se tourne alors vers le chef de son service action, le service chargé des sales boulots de la République.
Le président veut des représailles. Alors qu'est-ce que vous suggérez, colonel Laure Blanchaise ?
Eh bien écoutez, œil pour œil, dent pour dent. L'Iran a une ambassade à Beyrouth. On va la faire sauter.
Entendu. Le président veut aller très vite. Il faut absolument frapper avant la CIA.
Bien. Eh bien écoutez, nous montons l'opération dès maintenant.
Le chef du service action de la DGSE rassemble alors une vingtaine d'hommes, des commandos, des tueurs à gages de la République, basés à Sercotte, près d'Orléans. Et le 5 novembre 83 à l'aube, ils embarquent dans un avion Transal, direction Beyrouth. Ils emportent avec eux 600 kilos d'explosifs et des détonateurs.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui les dessous d'une opération montée par la DGSE en 1983 pour venger la mort de 58 parachutistes français dans l'attentat du Drakkar à Beyrouth, au Liban. Une histoire que nous allons débriefer tout à l'heure avec le journaliste Vincent Nouzi, qui est l'auteur d'un livre et d'un documentaire qui raconte, entre autres, cette affaire, « Les tueurs de la République », paru en 2015 chez Fayard. Les services de renseignement français et américains ont acquis la conviction que l'Iran se cache derrière l'attentat. Le président Mitterrand demande alors à la DGSE de monter une opération de représailles. Le service action de la DGSE pense alors organiser un attentat contre l'ambassade iranienne à Beyrouth. Un commando d'une vingtaine d'hommes du service action embarque à bord d'un Transal pour Beyrouth avec 600 kilos d'explosifs. Nom de code de l'opération, Santé. Quand ils débarquent à Beyrouth, les 20 commandos du service action n'ont pas dormi depuis 2 jours. Ils s'installent dans l'un des bâtiments de l'armée française, baptisé la Frégate. Le temps est compté. Le président veut absolument que la France passe à l'action avant les États-Unis. Et donc, l'attentat aura lieu demain matin à l'aube. Demain matin, sans aucune préparation. La DGSE dispose certes des plans de l'ambassade iranienne, et des agents sont allés faire un repérage rapide. Mais c'est tout. Voilà le plan. Les hommes du service action entrent dans l'ambassade, par les sous-sols. Ils posent une douzaine de charges explosives. Ils ressortent et boum ! Normalement, l'immeuble doit s'effondrer. Le lendemain, à 6h du matin, le commando du service action s'approche de l'ambassade d'Iran. Mais à partir de là, rien ne va se passer comme prévu. D'abord, il y a des gardes, une vingtaine de gardes armés postés en faction à l'étage, qui ont l'air de disposer d'une mitrailleuse. Le mur d'enceinte est beaucoup plus haut que prévu. Les Iraniens l'ont rehaussé avec des parpaings. Et les maisons voisines sont plus proches que le commando ne l'imaginait. Et surtout, les militaires français pensaient agir dans le noir. Il y a des projecteurs allumés partout. On y voit comme en plein jour. Bref, les hommes du service action comprennent qu'on les a envoyés au casse-pipe. Alors ils décident d'annuler l'opération et de rentrer à la caserne. Et de retour à la frégate, les commandos s'installent dans le gymnase pour dormir quelques heures. Et là, le colonel Laure Blanchaise, le patron du service action, prévient Paris que l'opération a été annulée.
Colonel, je vous le répète, le président veut agir avant les Américains. Donc vous organisez une nouvelle opération, immédiatement.
Mais enfin, amiral, il nous faudrait 48 heures minimum.
Pas question. Nous voulons une action dès ce soir.
Le colonel rejoint alors ses hommes dans le gymnase. Il les réveille.
Désolé les gars, on remet ça ce soir même. Qui est volontaire ?
Ils sont 8 volontaires. Le plan est différent de la veille. Ils vont bourrer une Jeep avec 600 kilos d'explosifs, la garer devant l'ambassade et 15 minutes après, boum ! À la nuit tombée, c'est parti. Le commando s'approche de l'ambassade à bord de trois jeeps, dont celle qui est bourrée d'explosifs. Une fois arrivés aux abords, deux hommes sont chargés de faire diversion. Ils vont dans un terrain vague juste à côté et ils tirent une roquette en direction d'un balcon de l'ambassade. Et immédiatement, les gardes iraniens se mettent à riposter. Au même moment, d'autres membres du commando détruisent les lampadaires et les projecteurs. Et deux hommes vont garer la jeep piégée devant l'ambassade. Ils arment le détonateur, à retardement, et ils rejoignent leurs camarades et tout le monde évacue en direction du port. La jeep doit exploser dans 15 minutes. Mais au bout d'un quart d'heure, rien. 20 minutes, toujours rien. La bombe n'a pas été correctement amorcée.
Putain, c'est pas vrai! Allez bon, on y retourne! Faut faire péter cette jeep!
Les deux jeeps reprennent alors le chemin de l'ambassade iranienne et une fois sur place, ils balancent deux roquettes sur la jeep, mais elles atteignent l'avant du véhicule et la bombe est à l'arrière. C'est la Skoumoun. À ce moment-là, alertée par les tirs de roquettes, débarque une patrouille de l'armée libanaise. Elle encercle la jeep en feu. C'est foutu. Le commando du service action de la DGSE rentre à la frégate la queue entre les jambes. Pour la deuxième fois. Et le lendemain, humiliation suprême, les Libanais viennent leur rendre la jeep. Heureusement que c'est un pays ami. L'opération est annulée. Le commando de la DGSE rentre à Paris. Autant vous dire que Mitterrand est furibard. Il veut toujours sa vengeance. Le 12 novembre, le président américain Ronald Reagan fait passer un message à Mitterrand. Nous comptons frapper l'Iran entre le 16 et le 19 novembre. Nous souhaitons mener une action commune avec la France. Mais le président français, lui, il ne veut pas d'opération commune. Il veut une opération française, bien identifiée. Et elle sera donc militaire. Le 17 novembre, 8 avions français décollent du porte-avions Clémenceau, stationné au large de Beyrouth. Ils ont pour ordre de bombarder deux bâtiments, un hôtel et la caserne Cheikh Abdallah à l'est de Beyrouth. Deux bâtiments qui hébergeraient une centaine de militaires iraniens et des miliciens du groupe Hamas. Ils arrivent sur zone, les chasseurs français commencent à essuyer des tirs de missiles anti-aériens et ils lâchent une trentaine de bombes. Juste après, la DGSE envoie une équipe sur place pour évaluer les dégâts. Mais quand ça veut pas, ça veut pas. Il y a beaucoup de survivants, beaucoup trop de survivants. Le bombardement n'a pas fait plus de 30 morts. Et dans la foulée, le chef de la milice Amal, Hussein Moussaoui, ricane.
Le bombardement a fait un mort et deux blessés. La caserne a été évacuée avant les tirs, c'est tout.
Et la presse libanaise elle-même se moque des Français. Raid des super-étendards sur Baalbek, un âne et deux chèvres tués. Mais au cours du Conseil des ministres qui suit, Mitterrand assume.
Il y a eu un certain étonnement devant cette mesure, qui a été dure à prendre, qui a été exécutée dans des conditions risquées et qui a été réussie par rapport à ses objectifs.
Réussi, pas tant que ça. Le 21 décembre, nouvel attentat contre une caserne française à Beyrouth. Un camion piégé qui fait un mort et 16 blessés parmi les parachutistes. Et encore un attentat le 9 janvier devant l'ambassade de France. Un légionnaire tué. Il faut des mois et des mois d'enquête pour identifier les commanditaires de l'attentat du Drakkar.
Monsieur le Président,
nous pensons avoir identifié le cerveau. Imad Mougenier, c'est un Libanais, 22 ans. Il travaille pour les Pasdaran, les gardiens de la révolution iranienne. Imad Mougenier, c'est donc lui maintenant l'objectif de la vengeance française et américaine.
Europe 1, on de la traconte.
« Je vous raconte aujourd'hui les dessous d'une opération menée par la DGSE en 1983 pour venger la mort de 58 parachutistes français dans l'attentat du Drakkar à Beyrouth, au Liban. Une histoire que nous allons débriefer dans un instant avec le journaliste Vincent Nouzi qui a écrit un livre et réalisé un documentaire qui raconte entre autres cette affaire, Les Tueurs de la République, paru en 2015 chez Fayard. Les services de renseignement français et américains ont acquis la conviction que l'Iran se cache derrière l'attentat. Le président Mitterrand demande alors à la DGSE de monter une opération de représailles, qui se conclut par un fiasco. La DGSE ne parvient pas à faire sauter l'ambassade iranienne à Beyrouth. Dans la foulée, un bombardement contre des bâtiments qui hébergeraient les auteurs et les commanditaires de l'attentat est un demi-échec. Quelques mois plus tard, le cerveau des attentats est identifié, un Libanais qui s'appelle Imad Mougenieh. C'est lui la prochaine cible. Alors qui est cet Imad Mougenieh ? D'après ce qu'a pu apprendre la DGSE, c'est un Libanais de 22 ans. Qui aurait été recruté par les Iraniens pour diriger la branche armée du Hezbollah, une organisation secrète libanaise, à la solde de l'Iran. Maintenant, c'est lui la cible. Il faut l'éliminer, ou mieux, le capturer. Seulement voilà, le garçon n'est pas un enfant de cœur. C'est un agent secret surdoué, une sorte de Jason Bourne à l'iranienne, une anguille, et d'ailleurs on le surnomme celui qui ne dort jamais. Il ne passe jamais deux nuits au même endroit. Il porte toujours un pistolet à la ceinture, il est protégé par des hommes armés jusqu'aux dents, il dispose de beaucoup d'argent et sa maison dans un quartier pauvre du sud de Beyrouth est gardée en permanence par des miliciens. En décembre 1985, la CIA fait savoir à la DGSE que selon ses informations, Mougenieh est de passage à Paris. On le cherche dans tout Paris. Pas de Mougenieh. Rebelote, six mois plus tard, en mai, la CIA le signale en France. Pasqua envoie la DST surveiller l'hôtel où il est censé descendre. Chou blanc. Mais en vérité, est-il certain que les Français veulent vraiment la peau de Mougenieh ? C'est pas sûr. Les Français sont bien embêtés. Il y a eu beaucoup d'enlèvements d'otages français au Liban ces derniers mois. Carton, Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, ça vous dit quelque chose ? C'est le Hezbollah qui les a enlevés. Alors l'équation est simple. Si on dézingue Mougenieh, les otages sont fichus. Donc, prudence. D'après ce qu'on croit savoir, ce sont finalement les Israéliens qui ont eu la peau de Mougenieh. Mais très 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 longtemps après, en 2008, ça se serait passé à Damas, en Syrie, le 12 février 2008. Ce jour-là, Mougenieh sort de l'une de ses planques, il monte dans un 4x4 BMW, il a rendez-vous avec le président syrien Bachar el-Assad. Il tourne la clé de contact, il fait quelques mètres et boum ! Ça n'était pas son 4x4. Le Mossad israélien l'avait échangé contre une voiture piégée absolument identique. Il serait même allé jusqu'à reproduire des rayures sur les portières. Mougenieh n'y a vu que du feu. 23 ans après le double attentat de Beyrouth, la France et les États-Unis ont été vengés par les services secrets israéliens.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous ai raconté aujourd'hui l'attentat du Drakkar en 1983 à Beyrouth au Liban qui fait 58 morts parmi les parachutistes français et 241 morts chez les marines américains. Les services secrets attribuent cet attentat à l'Iran et le président Mitterrand ordonne à la DGSE une opération de représailles. Le service action de la DGSE propose de faire sauter l'ambassade d'Iran à Beyrouth avec 600 kilos d'explosifs. Mais l'opération est trop précipitée, elle vire au fiasco et pour venger la mort des parachutistes, la France finira par bombarder deux bâtiments supposés héberger des milices pro-iraniennes. Et j'ai été capable de vous raconter cette histoire aujourd'hui grâce à vous, Vincent Nouzi. Vous avez publié en 2015 un livre qui raconte plusieurs opérations du service action de la DGSE, dont celle-ci, Les tueurs de la République, paru chez Fayard et disponible aujourd'hui chez J'ai lu. Est-ce qu'on pourrait faire une petite éducation sur ce que sont les services secrets français? Et d'abord, dites-nous comment est-ce que vous pouvez collecter ce type d'informations. Vous parlez à d'anciens de ces commandos, à d'anciens membres du service action?
Oui.
C'est pas muet, un ancien du service action.
Parfois, il y a un peu de prescription avec le temps. Et puis, il y a un certain rapport de confiance qui peut s'établir au fil des années. J'ai mis 3 ans pour faire cette enquête, pour écrire ce livre. Et sur cette histoire plus particulièrement, vous savez, on avait dit que les Français ne voulaient pas faire sauter finalement cette ambassade d'Iran, que c'était juste, dans le fond, un message. On allait déposer juste cette Jeep. Oui. Et puis c'est tout. Dans le fond, c'était juste un message codé.
On ne savait pas que c'était un raté.
Voilà. Et en l'occurrence, je voulais quand même avoir le fin mot de l'histoire. C'est-à-dire, je voulais d'une part interroger notamment l'amiral Lacoste, ce que j'ai fait, qui m'a expliqué ce que lui avait dit François Mitterrand. Je veux me venger, c'est l'Iran, et je veux quelque chose.
Donc, Lacoste le dit,
oui, absolument.
Sans gêne, au nom de l'histoire, c'est
au
ça l'argument.
Au nom de l'histoire, ouais. il le dit, il l'explique, parce que cette commandite politique sur un service secret, c'est important. C'est important qu'il y ait un contrôle, et c'est important qu'il y ait, dans le fond, que le président assume quelque part ça. Donc là, en l'occurrence, le président assume. Ce n'est pas à lui de dire quels moyens techniques il faut employer pour faire l'opération. Ça, c'est au service
action
de le déterminer, le service, la DGSE, qui a en son sein des groupes, disons, de militaires qui sont formés à l'action clandestine, formés à l'action pour aller dans tous les pays étrangers pour faire des missions, soit de renseignement, soit d'entrave, ce qu'on appelle l'entrave, c'est-à-dire on va essayer d'éviter, par exemple, qu'il y ait un attentat qui soit commis en France où on va se venger.
Mais j'en reviens à ma question. Vous avez rencontré des gens. Alors, l'amiral Lacoste vous parle au nom de l'histoire pour que reste une trace de cette affaire. Mais est-ce que vous rencontrez quelques-uns des hommes qui étaient sur le terrain ce jour-là à Beyrouth?
En l'occurrence, il m'a fallu plusieurs mois avant de retrouver la trace, parce qu'évidemment, ils n'ont pas leur nom ne figure nulle part. Donc il faut se faire, si je puis dire, introduire un petit peu dans ce milieu pour peut-être à un moment donné tomber sur quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a participé à cette opération. Au bout de plusieurs mois, j'ai fini par trouver 2 témoins dont les récits donc concordent et que je fais parler de manière évidemment anonyme dans mon livre. Et puis depuis le livre d'ailleurs, l'apparition, j'ai rencontré un 3e témoin. C'est-à-dire que sur la vingtaine de membres du commando, donc j'ai le témoignage, disons, de la direction de la DGSE. Et j'ai les témoignages de 3 membres de ce commando qui font que ce récit tient la route, si je puis dire.
Alors, ça ressemble ?
Et qui font que aussi on peut dire aujourd'hui qu'ils voulaient vraiment faire sauter cette ambassade. Et qu'en l'occurrence, c'est une erreur humaine. La personne qui devait enclencher les retardateurs, qui n'a pas pu le faire. Peut-être question de stress. Ils n'avaient pas dormi depuis 3 jours. Peut-être
donc c'est le type qui est censé armer la bombe qui fait une erreur.
Qui fait une erreur. Alors ses camarades vont évidemment le deviner, comprendre qu'il y a eu cette erreur humaine. Évidemment, il ne s'agit pas de l'accabler, mais quelque part, le service est obligé d'assumer ce type d'erreur. Donc, ce sont des personnages, des anciens du service action qui m'ont raconté cette histoire.
Mais à quoi ça ressemble, pardon, mais là, il y a une curiosité. À quoi ça ressemble, un ancien du service action?
Ça ressemble à tout le monde, ça ressemble à personne.
Ils sont à la retraite aujourd'hui.
Ils sont évidemment à la retraite, ils sont plutôt discrets, ils ne parlent pas beaucoup.
Ils sont contents de raconter ou pas?
Pas tous. Il y en a un notamment qui ne voulait pas me parler. Et donc, j'ai fini par écrire l'histoire et à lui soumettre.
Oui.
De façon à ce qu'il me dise, en gros, si c'était
vrai,
pas vrai. Donc, je ne lui demandais pas de me raconter toute l'histoire. Je voulais juste qu'il me corrige éventuellement quelques erreurs factuelles, précises, sur notamment les lance-roquettes qui avaient été utilisées.
Ils obéissent à un colonel qui est le patron du service action. Ce sont tous d'anciens militaires ou tous des militaires?
Ils ont tous une expérience militaire. Quand on est envoyé sur ce type de mission au sein du service action, on vient par exemple des meilleurs régiments de l'armée de terre. Par exemple, le 1er RPIMA de Bayonne, où on vient, on peut venir des...
Ce sont tous des anciens des forces spéciales?
Oui,
ils sont tous passés par les forces spéciales.
Ils sont tous passés par un cursus militaire, mais en général, ils ont le goût de l'aventure. Ils ont le goût de la clandestinité, parce qu'on n'est pas... ce ne sont pas des légionnaires qui défilent au Palois en faisant du bruit. C'est des gens qui doivent être furtifs. Donc, ils doivent avoir une espèce de schizophrénie. Ils ont une schizophrénie dans leur tête. C'est-à-dire qu'il y a un côté... Monsieur Passepartout, monsieur gentil, monsieur, je vous salue, je vous fais passer dans la rue. Enfin, ils doivent passer totalement inaperçus. Mais quand ils sont dans l'action, c'est pas des machines à tuer, mais il y a une forme d'automatisme. Ils sont surentraînés. Il y en a un même qui m'a surpris par son regard en permanence aux aguets autour de moi. C'est-à-dire que vous arrivez dans une scène avec lui, dans un endroit...
Il est chez lui, là. Non, même pas. Il ne vous reçoit pas chez lui.
Non, il ne me reçoit pas chez lui. On est, par exemple, sur une place.
Oui.
Il va tout de suite voir toutes les issues. Tout de suite voir par où il faut passer pour éventuellement sortir. Il va tout de suite voir les comportements éventuellement suspects de telle ou telle personne qui va traverser, qui est passée trois fois. Vous n'avez rien remarqué. Mais lui, il a tout vu parce qu'il est surentraîné. Il a un cinquième sens, sixième sens.
Ces types-là, est-ce qu'ils ont une appréciation de la situation ou est-ce que ce sont des gens aux ordres, prêts à exécuter n'importe quel ordre ?
Non, mais en l'occurrence, dans cette histoire, ils sont bien aux ordres. C'est-à-dire qu'on leur fait... On leur met une pression maximale. Il y a bien cette capacité de jugement, puisqu'ils y vont une première fois, ils se rendent compte que techniquement, ce n'est pas possible de faire comme ils pensaient, et ils décident d'annuler. Et pour le chef du service action, Lord Blanchès, il fallait plutôt arrêter. Mais il a l'impression de Paris, de l'Élysée, pour faire l'opération le soir même. Ils auraient pu, dans le fond, préparer l'opération un peu plus savamment, 2-3 jours. Mais ils ne le font pas, parce qu'il y a cette pression politique. Et dans le fond... elle est toujours mauvaise conseillère.
Alors, ils ne savent pas que le mur a été rehaussé avec des parpaings récemment. C'est quand même dingue, ça, parce que le repérage est quasiment inexistant.
Oui, c'est ce qu'on appelle une reconnaissance à fin d'action. RFA, c'est dans leur jargon. Hein,
donc, ils passent en bagnole devant, c'est ça que ça veut
dire ?
Non,
mais en général, ces opérations de reconnaissance à fin d'action sont extrêmement minutieuses, peuvent prendre plusieurs semaines. On fait des photos, on va aller observer les horaires des rondes, évidemment. On fait tout ce repérage nécessaire pour déterminer un plan d'opération qui soit efficace.
Mais là, ça a été le minimum.
Là, c'était le minimum. Ils n'avaient pas le temps.
Donc, ils ne savent pas que la scène est éclairée. Ils ne savent pas qu'il y a des gardes armés.
La première fois qu'ils viennent pour faire l'opération, en fait, ils découvrent la scène.
Ouais.
Et donc, ils se rendent compte que ça ne va pas le faire la façon dont ils pensent. C'est pour ça qu'ils vont imaginer un plan d'accès. Ils ont même imaginé, le lendemain, de faire rouler la Jeep de manière automatique. En pilotage automatique, en coinçant l'accélérateur.
Avec un parpaing.
Pour qu'elle aille, ouais, dans le fond, vers le mur d'enceinte de l'ambassade et que ça pète. Sauf que la Jeep n'avait jamais tout droit parce qu'ils avaient essayé de la régler. Donc, ça, c'est les petits détails que m'ont raconté les agents du service action.
On va marquer une pause, une de plus. Et je renvoie toujours vers votre livre qui est absolument passionnant, mais je ne suis pas le premier à le dire. Ça s'appelle Les Tueurs de la République, Assassinat et Opération spéciale des services secrets. C'est signé Vincent Nouvet. Nouzi, ça vaut 7,80€ chez J'ai lu.
Delattre raconte sur Europe 1.
Je vous ai raconté tout à l'heure l'attentat du Drakkar en 83 à Beyrouth au Liban. 58 morts parmi les parachutistes français, 241 morts chez les marines américains. Et cet ordre que donne donc le président Mitterrand au service action de la DGSE, organisez-moi une opération de représailles. Et j'ai pu la raconter cette opération grâce aux informations que vous avez recueillies, Vincent Nouzi, et qui nourrissent votre livre « Les tueurs de la République » paru en 2015 chez Fayard et disponible aujourd'hui chez J'ai lu. Tous les présidents de la République, là on parle de Mitterrand, mais ont utilisé les services du service action de la DGSE pour tuer des gens.
Pour tuer et pour faire aussi plein d'autres choses, bien sûr. Mais effectivement, chaque président a un peu sa ligne de conduite. Mitterrand, c'était très spécial parce que vous le savez, il était un peu mystérieux, un peu florentin, un peu silencieux des fois. Donc il y avait des patrons de la DGSE qui venaient devant lui en lui exposant un cas de figure. Et il repartait sans avoir de consigne très claire. En l'occurrence, dans cette histoire, la consigne est claire.
Oui,
mais ce n'est pas toujours le cas.
Mais ce n'est pas le cas au long de ces deux mandats.
Voilà. Donc, au long
c'est
de ces
le président
mandats,
qui a régné le plus longtemps dans
voilà,
ce pays.
Voilà, et donc il y a eu des opérations qui ont été faites sans qu'on sache vraiment si le président était d'accord ou pas. D'ailleurs, l'opération Greenpeace... l'opération du Rainbow Warrior, qui va faire un scandale, parce que c'est en 85.
C'est Mitterrand aussi, ça.
On sabote un bateau de Greenpeace en Nouvelle-Zélande. C'est une opération montée par le service action. Et là, on ne sait pas trop quelle est la réelle consigne donnée par Mitterrand. Est-ce qu'il fallait empêcher, faire quelque chose ? C'était pas très clair.
Est-ce que c'était précis ou pas ?
Non, c'était pas très précis. On savait que Mitterrand voulait qu'on fasse quelque chose, peut-être... Le ministre de la Défense a fait du zèle, peut-être la DGSE a fait du zèle.
Chirac qui suit Mitterrand, est-ce qu'il fait le même usage du commando action ?
Beaucoup plus prudent. Chirac était très craintif. D'abord, les deux n'avaient pas une très grande confiance
dans la DGSE,
dans les services secrets en général. Peut-être d'ailleurs ces échecs nourrissaient-ils cette méfiance. Et je pense que pour Jacques Chirac, il y avait d'autres histoires des années 60, des années de Gaulle. Les implications du SDEC, qu'on appelait le SDEC à l'époque, c'était pas la DGSE, dans des sombres affaires de la période gaulliste, lui rappelaient des mauvais souvenirs.
Au côté du sac,
dans l'affaire Markovitch, enfin, voilà. D'autres choses qu'on pourrait raconter. En l'occurrence, Chirac se méfie beaucoup, et à chaque fois qu'on lui propose une opération pour le service action, il dit non, ça va nous créer des emmerdes. Vous savez, sa fameuse phrase, les emmerdes, ça vole en escadrille. C'était un peu ça. C'est-à-dire, à chaque fois, il pensait qu'on allait prendre un boomerang.
Sarkozy
commence plutôt beaucoup.
Moi, comme ça, au premier abord, je me dis Sarkozy, ça a dû l'intéresser.
Au début, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Ça ne s'intéresse pas beaucoup ni au service, ni aux militaires. Et puis progressivement, peut-être sous l'emprise d'ailleurs, enfin sous l'influence...
De Claude Guéant,
mais aussi de son chef d'état-major particulier, qui était un général Puga, qui était un ancien parachutiste qui avait sauté sur Colwesi en 78. Lui, plutôt partisan d'opérations, ce qu'on appelle de vive force, c'est-à-dire on saute en parachute et on y va. Et donc, ils vont mener un certain nombre d'opérations... Soit la DGSE, soit les forces spéciales, notamment par exemple pour tenter de libérer les otages au Sahel. Ça a été le cas en 2008, en 2011. Les opérations n'ont pas toujours, elles n'ont plus réussi.
François Hollande, alors ça on le sait parce qu'il l'a dit lui-même, a procédé à des exécutions arbitraires via les commandos du service action de la DGSE.
Absolument. Donc ça, c'était quand il l'a dit aux deux journalistes, Gérard Davé et Fabrice Lhomme, j'avais publié mon livre déjà quelques mois auparavant. Et d'ailleurs, visiblement, il cite mon livre en disant, mais peut-être ils interrogent le président en se basant, dans le fond, sur une partie de mes révélations. J'avais dit et expliqué qu'il y avait une liste de gens à éliminer qui étaient, dans le fond, dans la poche du président, enfin, ou sur son bureau.
Et que Hollande assumait ça.
Et que Hollande assumait une forme des neutralisations, ce qu'on appelle neutralisation, soit une capture, soit des éliminations.
On va un peu vite parce qu'il faut que vous nous disiez si Macron continue.
Ah.
Est-ce que le président Macron ordonne des exécutions ?
Je ne peux pas le dire à l'heure qu'il est. Ce que je pense, ce que je crois savoir, c'est que sa fermeté est presque aussi grande, voire même plus grande que celle de François Hollande.
Donc on reste sur la ligne de François Hollande,
on
a priori.
On est certainement plutôt sur cette ligne-là, mais je n'ai pas d'exemple à vous donner.
Vous travaillez là-dessus. Est-ce qu'avec les médias la mondialisation de l'information, il ne devient pas de plus en plus difficile de garder ses opérations secrètes ?
Oui, ça devient difficile. Par exemple, quand le Mossad, le service israélien, réputé extrêmement efficace, loupe une opération, par exemple, c'était le cas dans les Émirats, eh bien, tout de suite, ça fait un scandale international. Lorsqu'ils ont bombardé, par exemple, une centrale nucléaire irakienne en 1980, là aussi, scandale. Donc, plus on emploie des moyens évidemment importants, plus ça devient compliqué de ne pas signer et donc de passer totalement inaperçu. Mais il y a encore une grosse zone d'ombre sur ces opérations. On ne sait pas tout parce que le confidentiel défense protège des opérations qui sont actuellement en cours, peut-être en Syrie, en Irak, en Libye, dans d'autres zones un petit peu conflictuelles, ce qu'on appelle des zones grises. On n'est pas totalement en guerre, mais on est un peu en guerre. Et on envoie des gens pour faire des opérations de ce type.
Alors tout ça se fait hors cadre légal. Il n'y a jamais de résolution des Nations Unies qui condamne ce genre d'opérations qui, en droit international, sont absolument interdites.
Lorsqu'on est dans les opérations clandestines, du type assassinat ciblé clandestin ou contre-attentat, comme celui que Mitterrand avait commandité à Beyrouth en 83, évidemment qu'on est dans l'illégalité absolue. Lorsque ce sont les opérations militaires plus visibles, conventionnelles, revendiquées avec des insignes et des drapeaux, là, il y a un cadre légal, le cadre des guerres. Donc là, on est obligé de se référer au cadre des guerres. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les états-majors disent « Non, non, nous, on respecte les règles de la guerre. » Et on a des règles d'engagement, des règles de combat, et on évite les dommages collatéraux, etc. Donc, il y a des règles notamment pour intervenir en Irak, en Syrie. Il y a eu des règles pour intervenir au Mali. Il y a des résolutions de l'ONU qui autorisent des fois l'usage de la force. Mais en l'occurrence, quand on est dans ce monde clandestin, c'est pas vu, pas pris.
Combien d'hommes actuellement au service action de la DGSE, vous le savez ?
Environ 800 à 1000.
Ah, quand même ?
Oui.
1000 personnes qui sont prêts à tuer sur ordre.
Bah, ils ne font pas que ça. Ils font beaucoup aussi d'entraînement, ils font beaucoup aussi de formation clandestine auprès d'un certain nombre de guérillas ou de gens qui sont nos amis. Ils peuvent avoir des contacts, ils peuvent encadrer des ambassadeurs, par exemple, pour leur sécurité. Ils peuvent avoir des missions de tous ordres. Et la partie élimination est vraiment qu'une toute petite partie de leur activité.
Vincent Nouzille, auteur du livre Les tueurs de la République, assassinat et opération spéciale des services secrets, était l'invité donc de Christophe Ondelat pour ce On de Latte raconte consacré à l'attentat du Drakkar en octobre 83 au Liban à Beyrouth. Rendez-vous demain 14h pour un autre récit.